Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, comme à l'entame de chaque demi-heure, ce sont les marchés qui nous occupent et on file donc au siège d'Euronext, à la Défense, y retrouver Antoine Larguedry qui garde un œil attentif sur les évolutions de la tendance de cette matinée. Que se dit-on pour justifier finalement cette hausse un petit peu plus franche qu'elle ne l'était au début de la séance ?
Bah, ça va faire causer vos analystes et vos traders, ça, parce qu'effectivement, on a eu une petite poussée haussière assez notable, une vingtaine de minutes, qui nous a fait monter jusqu'à 6665 points. Donc, à deux points près, notre plus haut de la semaine dernière à 6667. Évidemment, on n'a pas marqué 6666, mais ça, c'était pour me faire rager. Mais enfin, on n'est vraiment pas très loin, hein. 0,38%, 6659 à l'instant, avec une hausse un petit peu plus franche aussi du côté des autres indices européens, avec du plus 0,55 pour l'Eurostock 50, plus 0,6 pour le DAX à Francfort. Ça, c'est vraiment 100% technique, hein. Il n'y a aucune explication fondamentale, aucune actualité particulière de nature à nous faire ce petit bond, hein, du côté du CAC 40. À noter quand même toujours l'apport très net de Total Energy à cette hausse, avec une hausse de 3,9%, 57,78 €. Encore une fois, un petit raffermissement des prix du brut, hein, qui est à chercher comme explication. 88,15 $ pour le baril de Brent de Mer du Nord, qui était plutôt du côté des 87-86, hein, il y a quelques jours. On a repassé le cap des 80 $ pour le brut léger américain. Et c'est le secteur de l'énergie, hein, qui signe parmi les plus fortes hausses du moment. Vallourec qui se reprend bien, hein, après une forte baisse et ses chiffres d'activité jugés décevants. Le titre gagne 7,2% à 10,70 €. Et donc Total Energy suit sur le SBF 120. À noter aussi une petite reprise sur dossiers un petit peu maltraités du moment. Orpea qui regagne 4% à 6,98 €. Atos plus 3,6% à 10,55 €. Et puis à noter aussi une logique un petit peu matières premières qui prévaut, hein. Ce matin, ArcelorMittal signe une hausse de 2,2% à 25,44 €. À la baisse, c'est un tir groupé du secteur du luxe, hein. L'Oréal, moins 28 à 343,80 €. Hermès, moins 0,9 à 1463 €. LVMH, moins 0,9 693,10 €. Et puis la techno également, Dassault Systèmes moins 0,57 à 35,87 €, Téléperformance moins 0,8 220 €. Donc les valeurs de croissance, le luxe, la techno qui sont en repli. C'est Amundi qui signe la plus forte baisse du SBF 120 à moins 2%, 53,20 €. Le CAC donc plus 0,36, bien orienté, 6658 points, non loin de nos derniers plus hauts. L'euro 1 $ 0,273. Cédric.
Antoine Larguedry depuis le siège d'Euronext à la Défense.
BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège.
L'œil ce matin de Marc Riez. Bonjour Marc, pour Vega IM. Merci de nous accompagner. D'abord, un petit regard sur les marchés, sur l'ambiance de cette fin d'année. L'avance peut-être du CAC par rapport à d'autres. Comment vous voyez les choses? Comment vous sentez finalement le marché?
Là, on a l'impression que le marché est passé dans une nouvelle phase. Alors, il est toujours dans une phase d'anticipation, hein. Mais là, on a vraiment l'impression que depuis notamment la tombée de ce chiffre du CPI américain du mois d'octobre, il commence à ne plus être dans la logique les banques centrales serrent la vis, remontent les taux, réduisent les liquidités, mais qu'il est déjà dans l'état d'esprit, finalement, cette phase de resserrement, elle est en train d'avoir lieu, elle est intégrée, etc. Finalement, elle sera peut-être moins longue ou moins importante que ce qu'il avait pu imaginer, et on a l'impression que maintenant, ce qui domine, en fait, et c'est ce qui explique certainement l'ampleur du rebond, hein, qu'on a eu depuis la fin septembre, c'est qu'il s'est déjà projeté dans l'après-remontée des taux, même si elles sont pas terminées, même si on voit bien que les taux peuvent rester à un certain niveau un certain temps, mais globalement, c'est déjà ce qui prévaut le fait que la phase de hausse à grands pas, à 0,75 à chaque fois, est terminée, et que les hausses qui restent vont être de plus petite ampleur, peut-être moins nombreuses, etc. Donc ça, c'est l'élément un peu, si vous voulez, qui est au
cœur. Il a quand même changé un petit peu de lubie.
Voilà. Il a changé de lubie. Il était dans la lubie depuis, en particulier, Jackson Hole, Ça va être beaucoup plus sévère pour nous que ce qu'on avait imaginé. Et là, depuis effectivement mi-octobre, ce sentiment s'est un peu renversé. Après, il y a un autre élément qui est objectif derrière ça, c'est que vous savez que le marché, il essaie toujours de comprendre ce qui va se passer dans 2, 3, 6 mois. Or là, quand vous regardez ce qui a généré finalement cette inflation, ces craintes, etc., ça a beaucoup été le prix des matières premières énergétiques. Bon. Or, vous vous souvenez que le sommet, je dirais, des cours du baril de pétrole, tel qu'on l'a vu jusqu'à maintenant, c'était autour de $130. Et c'était vers le milieu, la fin du mois de mars 2021. Or, quand on parle d'inflation, on compare les prix il y a un an aux prix aujourd'hui. Donc, on peut se dire, peut-être qu'en mars 2023, le haut est en mars 2022, j'ai raconté n'importe quoi. Bon, il était en mars 2022, peut-être qu'en mars 2023, le baril de pétrole ne sera pas à 130.
Bien sûr.
Il sera à 100.
Et du coup, on aura ce qu'on appelle un effet de base.
Voilà, on aura un effet
favorable.
De base favorable cette fois-ci. Et donc, on peut même avoir une contribution négative du prix de l'énergie à l'inflation. Et donc, il commence un peu à essayer de jouer le fait que dans les mois qui viennent, eh bien cette contribution va commencer à devenir négative par rapport à la même période de l'année précédente.
Et du coup, la Fed va se sentir confortée dans son action, de se dire j'ai réussi mon pari, j'ai fait baisser l'inflation, d'autant plus que les mid-terms qui nous ont donné un congrès divisé, enfin... Ouais. Divisé, peut-être moins que certains l'espéraient, mais divisé, ça a tendance à ouvrir une perspective budgétaire plus restrictive, moins de carburant dans le moteur aussi.
Ça, c'est certain. Ces mi-termes, elles ont eu deux effets. Et l'effet que vous venez de décrire, Cédric, qui est de dire il pourra moins dépenser. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même bon pour l'inflation. Et puis le deuxième effet, c'est qu'il fallait que la Fed donne des gages avant les mi-termes, qu'elle luttait férocement contre l'inflation. Maintenant que les mi-termes sont passés, cette obligation de communication autour de on va remonter, on va taper, on va empêcher les prix de monter. Braves Américains, dormez tranquille, vous pourrez toujours acheter des cochonneries. Ça c'est le deuxième effet, c'est qu'il n'y a plus l'impératif politique et l'urgence politique qu'il y avait avant les mid-terms. Mais il reste quand même un dernier sujet qui n'est pas complètement réglé, en dépit des hausses de taux qui ont déjà été faites, en dépit de ce phénomène budgétaire qui sera plus raisonnable sûrement, c'est que le marché de l'emploi aux États-Unis, pour l'instant,
reste quand même chaud bouillant.
Très solide.
Voilà. Mais malgré tout, on sent bien dans le discours des officiels de la Fed que la marche forcée de 75 points de base à chaque réunion
est terminée.
Et derrière nous.
C'est ça.
Que désormais, on va plutôt avoir du 50,
puis 25,
et peut-être du 25.
Voilà. Avec, là, on est à 3,75-4, avec un objectif qui sera pas loin de 5.
Ouais, c'est ça.
Alors certains...
Donc ça y est, maintenant, on arrive vraiment à dessiner de façon un peu plus assumée, rassurée. Le pivot de la Fed sera aux alentours de 5.
C'est ça. C'est ce que le marché anticipe. Alors certains pessimistes le voient à 5,25, 5,50. Certains plutôt optimistes à 4,75, mais globalement...
C'est toujours les questions de consensus.
C'est ça. Mais c'est vrai que pour moi, vraiment, le point à surveiller, ça reste cette évolution du marché de l'emploi aux États-Unis, parce que tant qu'il est aussi tendu, il y a ce risque d'effet de double tour, avec des augmentations salariales importantes qui peuvent, elles, après, réalimenter l'inflation, même si le pétrole n'est pas cher.
C'est en voyant un petit peu tout ça se calmer, entre guillemets, aux États-Unis que Philip Lane nous dit on a fait, nous aussi, une bonne partie de la quantité de normalisation.
Alors, eux,
la Fed va s'engouffrer dans la brèche en se disant... La BCE.
Oui. La BCE, elle est très en retard par rapport à la Fed.
Oui, mais on nous dit quand même qu'on a déjà fait une bonne partie du chemin.
C'est ça. Alors... Ça reste à voir, parce que la situation de l'Europe, elle n'est pas tout à fait la même quand même. La dépendance énergétique, la fragilité même de l'industrie européenne, avec ses problèmes d'approvisionnement en énergie, elle est marquée, donc on ne sait pas trop comment ça... Après, la chose, c'est que de toute façon, du point de vue des marchés, l'impulsion vient vraiment des États-Unis. C'est-à-dire que les grandes inflexions, on fait plus, on fait moins, etc.
Bon, donc c'est pas très intéressant de lire Philip Kane, quoi.
Alors, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, je ne vais pas dire que ce qu'il dit n'a pas d'intérêt, mais c'est vrai que pour nous gérants, ce que dit ou fait la BCE, ça a un impact sur le niveau de l'euro par rapport au dollar. Ça. Mais c'est pas vraiment ça, si vous voulez, qui fait qu'on va décider d'acheter ou de vendre. Et alors, est-ce qu'ils ont vraiment fait? Ben, ils ont fait quand même pas tant que ça. Après, ils peuvent pas faire tant que ça non plus, parce que ben, y a ce sujet de l'Italie.
Justement, quand on est un membre important de la BCE, comme l'est Philippe Lane, on peut dire, dans la même, enfin presque dans la même déclaration, on a déjà fait quasiment la majeure partie du chemin et enchaîné avec et on fera tout pour que l'inflation descende sur notre cible de 2%. C'est pas un peu antinomique,
antinomique. Et puis en plus, si vous voulez, là où la BCE est quand même un peu en difficulté, c'est que les politiciens européens font de la démagogie. C'est-à-dire que pendant que la BCE est en train de lutter contre l'inflation...
Oui, nous, on dépense à tout va.
Voilà, les budgets se lâchent et, en fait, alimentent finalement l'inflation. Donc, je pense qu'il ferait mieux de pas... Enfin, à leur place, moi, je communiquerai pas trop. Parce que il y a quand même pas mal d'éléments qui leur échappent. Je pense que cette communication... Elle veut se mettre dans les chaussures de la Fed, si vous voulez, de la réserve fédérale américaine, mais que elle a pas un intérêt majeur aujourd'hui en termes de crédibilité et de visibilité de ce que eux peuvent faire de toute façon.
Voilà pour nos deux grandes zones qui sont orientées sur cette baisse de l'inflation. Il y a une autre zone qui est intéressante à regarder parce qu'elle a beaucoup préoccupé les marchés, c'est la Chine.
Oui.
Et ces marchés, ils semblent vouloir croire à ces petits signaux. Alors on nous a fait deux trois petits signaux sur le...
Ou ne pas croire au mauvais en tout cas.
Ouais, le zéro Covid, deux trois petits signaux sur l'immobilier. Bref, une perspective de relance en Chine. Vous y croyez ?
Alors, déjà, ce qu'il faut voir, hein, Cédric, c'est pas pour vous faire une réponse de Normand, mais c'est que le marché d'actions chinoises a énormément baissé, hein, déjà. C'est-à-dire que ça veut dire que les investisseurs ont déjà dans leur logiciel un ralentissement important de la dynamique chinoise, un risque important sur l'immobilier chinois... des inquiétudes importantes sur la manière dont Xi Jinping gère ce Covid, avec à chaque fois fermer des villes entières, des usines, etc. Donc, je voudrais vous répondre un peu en relatif. C'est-à-dire que c'est pas tellement que je crois que ça va s'arranger de manière spectaculaire dans les semaines qui viennent, mais ce que je peux dire, c'est que les mauvaises choses sur la Chine ont été tellement anticipées par les marchés que maintenant... Vous avez raison de dire qu'il a l'air de se raccrocher à tout ce qui pourrait être un petit espoir que ça irait moins mal que ce qu'il a anticipé.
Bon, vous me faites un peu de peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et je vous en veux pas. Mais d'autant qu'en plus, les marchés pourraient finir par le faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils espèrent une relance chinoise, mais à la fois, si la Chine venait à relancer et donc à redémarrer nettement...
Le pétrole s'en va.
Voilà, ça nous remettrait une balle dans le pied en termes d'inflation.
C'est ça. C'est pour ça que, si vous voulez, aujourd'hui, cette situation de la Chine... elle est effectivement mauvaise pour un certain nombre d'activités économiques. On voit par exemple qu'il y a un lien très fort entre l'économie chinoise et l'Allemagne. Vous avez vu que le DAX réagit de manière principale aux inputs qui viennent de Chine. Quand vous avez ces espoirs d'amélioration en Chine, le DAX remonte parce qu'on sent que l'économie allemande est très portée sur l'exportation vers la Chine, etc. Donc, moi, ce qui me semble, c'est que, et pour vraiment préciser ma pensée par rapport à cette réponse, à la réponse tout à l'heure, c'est que je pense que le plus mauvais sur la Chine est derrière nous, non pas en termes de réalisation, mais d'anticipation déjà. Donc je pense que maintenant, tout ce qui sera un peu moins mauvais peut faire rebondir les actions chinoises, peut faire rebondir le DAX, peut donner un peu d'espoir. Et... ça, ce serait par exemple, vous voyez, des mesures qui aideraient à ce que l'immobilier ne soit pas un véritable crash qui entraînerait le système financier dans la déroute. Ça, par exemple, si c'est ça, c'est une mesure qui est à la fois favorable pour les marchés,
d'accord,
sans générer de hausse du prix du pétrole ou générer une inflation importée en Europe. Voyez, donc c'est vraiment ça.
Voilà donc quelques éléments de réflexion sur ces grands ensembles macroéconomiques. Oui. Après, il y a quelques petits débats qui parfois surgissent ou quelques infos qui viennent intéresser les acteurs de marché. D'abord, Paris qui a ravi à Londres oui. la première place. Alors, on est en termes de capi, hein, pas en termes absolus. La place de première bourse européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ah ben moi, ça m'inspire énormément de satisfaction pour une raison particulière. C'est que si la capitalisation de la place de Paris, qui est à peu près un peu moins de la moitié de celle de Londres il y a 10 ans, la dépasse aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a, côté à Paris, des valeurs dans des secteurs qui, depuis de nombreuses années, me paraissent intéressants, porteurs, etc. Je pense bien évidemment au luxe, hein, même si on a vu aujourd'hui que c'est un oui, secteur bon. Qui corrige sur la séance. Mais typiquement... peu de gens pensaient quand même il y a 10 ans ou disaient sur ce plateau, vous vous souvenez des débats avec Olivier Delamarche il y a 10 ans, etc. Vous étiez déjà là, moi aussi. Voilà, c'était.
Mais c'est quand même une inversion de podium, on va dire, qui est due essentiellement au Brexit, à l'effondrement un peu de la, enfin, ou au ralentissement de la place de Londres.
Je sais pas parce que je pense que c'est au-delà du Brexit. J'ai quand même l'impression que c'est la composition structurelle, sectorielle
de la place,
qui fait qu'en France, on était beaucoup plus sur des valeurs de croissance, qui ont énormément profité de toutes les dernières années, même si on voit que depuis un an, à cause de l'inflation, ils ont beaucoup souffert, etc. Et que Londres, par contre, était une place beaucoup plus industrielle, financière, etc. Et que, somme toute, c'est la spécialisation des entreprises françaises qui a permis ça aujourd'hui. Le Brexit, c'est sûr que ça n'a pas aidé. La chute de la livre sterling dans
ça
laquelle
n'a pas aidé non plus.
Part, ça n'a pas aidé non plus. Donc, c'est des éléments qui ont contribué, si vous voulez. Mais là,
il n'y a pas que ça.
Non, parce qu'on est quand même passé. On faisait moins de la moitié de la capitale. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que en tant que place financière, Londres reste quand même un centre financier mondial. Oui. De premier plan.
Daniel Gerino, l'autre jour, nous rappelait pour Carlton Sélection que s'il fallait qu'on ne serait-ce que recâbler de façon équivalente la place de Paris, il faudrait je ne sais plus combien, 5 ou 6 ans de travaux pour réussir à fabriquer Londres à Paris.
C'est ça. Ça, c'est quand même un énorme atout.
Effectivement. Autre dossier, les cryptos. Alors, je ne vous parle pas du niveau du Bitcoin ou de l'Ether ou de ce que vous voulez. Non, cette espèce de crise de croissance, de questionnement autour du gendarme, autour de la réglementation, autour... Voilà, cette nouvelle crise majeure que traversent les cryptos, ça vous indiffère, ça vous amuse, ça vous inquiète ?
De toute façon, c'est toujours un peu inquiétant quand il y a des crises comme ça, parce qu'on sait bien que même si c'est les cryptos qui s'effondraient complètement, ce serait pas sans incidence sur le monde réel maintenant, parce que ça représente quand même des centaines de milliards de dollars de capitalisation, donc de patrimoine quelque part pour les gens qui le détiennent. Donc bien sûr, ça m'inquiète. Après, moi, si vous voulez, je suis trop vieux pour avoir compris en fait ce mécanisme-là. C'est-à-dire que quand j'ai des clients qui me disent, mais L'Oréal, c'est un investissement risqué, et que je les vois me dire, par contre, j'ai acheté des bitcoins, je suis un peu sidéré, parce que je me dis, si on considère qu'une belle entreprise, qui a des clients, du chiffre d'affaires, des bénéfices, ça c'est risqué, et que un actif dont on ne sait pas vraiment ce qu'il pourrait valoir, en fait.
Mais vous ne vous dites pas, finalement, cette industrie justement très jeune, que vous dites vous-même ne pas avoir complètement appréhendé.
Mais est-ce que c'est une industrie ?
Est-ce que ce n'est pas normal, finalement, que dans une crise dans une période de croissance, on ait comme ça des crises qui sont même peut-être structurantes ?
Oui, mais là, le truc...
Et donc, bienvenue.
Là, je vois pas, en fait, ce qu'une crise du Bitcoin peut nous apporter vraiment, si vous voulez. C'est juste que nous, on fait un métier où on essaie d'évaluer, si vous voulez. On achète une entreprise parce que on regarde les bénéfices qu'on a. Alors, on se gourre souvent. Hein, je dis pas du tout que on a, vous voyez, une science infuse.
Ne vous auto-congratulez pas.
Non, pas du tout. Hein. Je vous sais avec énormément de modestie. Surtout moi, ça fait 35 ans que je fais ça. Je me prends des baffes tous les jours. Hein, donc voilà. Mais là, si vous voulez. Comment on évalue ? Parce que l'autre jour, on dit c'est passé de 20 000 dollars à 16 000 dollars. Bon, d'accord. Mais est-ce que ça en vaut 40 000 ou zéro ? Moi, j'en sais rien, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est derrière, en fait ? C'est ça que je n'arrive pas à toucher du doigt. Vous voyez, qu'est-ce qu'on achète quand on achète un bitcoin, en fait ?
Voilà, bah c'est dit. Il nous reste quelques minutes pour essayer de se projeter un petit peu dans l'avenir. Déjà, il nous reste en gros un mois et demi avant que ne soit terminé cet exercice 2022. Et si on regarde un tout petit peu dans le rétro, on s'aperçoit qu'il y a un mois et demi, on était quasiment au plus bas sur le CAC, il a déjà repris 1000 points.
C'est ça.
Il nous en manque quelques centaines pour...
600, 700.
Mais est-ce qu'on peut les rattraper d'ici la fin de l'année, à votre avis? Est-ce que le CAC 40 peut terminer en vert?
On peut. On peut parce que ce qui a été quand même très caractéristique de cette crise, c'est qu'une fois de plus, et nous on l'a vu dans les débats qu'on a eus avec les uns et les autres, c'était la fin du monde. Une fois de plus, tout était fini, on allait
vers un crash
effroyable, etc. Pour le coup, ben, les gens ne voulaient plus. Autant, si vous voulez, tout le monde voulait des actions à 7100, autant à 5008, plus personne n'en voulait. Et donc, ce à quoi on assiste depuis un mois et demi, là, depuis les plus bas de septembre, c'est pas seulement au fait qu'il y a ce sentiment que les banques centrales vont faire moins que ce qu'on pouvait redouter, mais c'est aussi que les gens étaient très absents ou très vendeurs sur les marchés d'actions. Je pense que beaucoup de grands hedge funds avaient vraiment vendu massivement les marchés d'actions et courent derrière. Or, quand vous avez un marché... comme on le constate hein, depuis quelques semaines, où dès que ça baisse un tout petit peu, tout le monde revient, etc. Alors, je ne sais pas si ça se fera d'ici le 31 décembre. Ouais. Là, c'est vraiment de la divination. Mais en tout cas, on a ce risque. Alors nous, si vous voulez, devant le rebond là, qu'on a depuis quelques mois, on a commencé à revendre un peu de ce qu'on avait acheté...
tout en bas.
Autour des 5008. Ouais.
Du coup, aujourd'hui, un épargnant qui nous écoute, qui a son portefeuille boursier, qui a résisté à la tentation peut-être d'avoir vendu de désespoir il y a un mois et demi, qu'est-ce qu'il doit se dire? Comment il doit procéder pour d'abord bien terminer l'année, puis surtout se positionner le mieux possible pour redémarrer son nouvel exercice boursier?
Je pense que si on a de quoi investir aujourd'hui, des liquidités, etc., il y a un peu deux choses à faire. Il y a d'abord il y a un sorte d'obligations qui sont en ce moment, qui donnent en ce moment du 3,5, du 4, du 4,5, du 5, etc. Donc
un peu d'obligataire.
4, 5, 6 ans, ça peut ne pas paraître complètement débile. Et c'est même pas la peine pour avoir ça d'aller chercher des émetteurs pourris comme à une époque. Donc on peut se contenter d'émetteurs solides et on a déjà des taux qui sont pas négligeables à 5 ans. Et puis après... les actions, c'est vrai que là, elles ont beaucoup rebondi. Donc, certains vous diront, c'est un peu trop tard pour revenir parce que ça a déjà beaucoup rebondi. Donc, on peut peut-être espérer une petite correction. Mais je pense que ça vaut toujours le coup d'avoir dans son portefeuille quand même des actions. Je veux dire, si on était prêt à acheter il y a 9 mois du L'Oréal à 440, c'est un peu idiot de se dire qu'à 340, ça n'a pas d'intérêt. Bon. Ce qui ne veut pas dire que ça n'arrivera pas à faire un tour en dessous de 300 à un moment ou à un autre.
Oui, non, mais...
Mais en tout cas, voilà.
Ce sont quelques idées que vous nous lâchez.
Quelques idées.
Merci beaucoup Marc. Marc Ries, Vega IM, qui nous accompagnait ce matin pour l'œil du stratège, le marché. Eh bien lui, il reste pour le moment sur ce mode haussier, mais hésitant, plus 0,27, 6652 points. On va voir ce qu'en dit techniquement dans un instant. Romain Dobry, qu'on retrouve chez Bourse Direct. Et puis vous n'oubliez pas les podcasts, les replays qui vous attendent sur notre site.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Dernière demi-heure de BFM Patrimoine et on ne déroge pas à la règle à l'entame de chaque demi-heure, direction les marchés pour en prendre le pouls, pouls technique à 11h30 grâce à Romain Dobry qui est installé au cœur de la cellule info d'experts de Bourse Direct, suit cette séance pour nous ce matin, séance qui a opté pour quelques gains, mais gains qui restent assez maigres, plus 0,11% seulement à l'heure actuelle. Romain, comment voyez-vous les choses? C'est pas assuré cette tendance positive?
Non, c'est pas assuré, c'est toujours, surtout les grands indices majeurs, une situation de trading range, mais en partie haute et avec plutôt des signaux de force. Hein, un marché qui ne donne pas de signaux de faiblesse, comme on le disait, pas de pression baissière, malgré la petite baisse du premier jour sur les marchés dérivés du mois de décembre. des portefeuilles toujours relativement protégés, relativement couverts, même compte tenu des niveaux. C'est assez équilibré, on va dire, du côté des ratios put call. Et donc, sur les différents indices, des zones de trading range très, très bien respectées. On en parlait tout à l'heure. Donc, 6662, la borne haute sur le futur CAC 40. Il y a eu tout de suite un rejet sur ce niveau-là. Et on a retracé d'une vingtaine de points. Assez rapidement. Donc la borne basse du trading range, c'est 6549, 6557, la médiane 6608. Tant qu'on est au-dessus de 6608, le biais est plutôt fort, plutôt haussier, et plaide pour un possible débordement de la borne haute pour aller chercher une extension vers 6775. Si on repasse sous 6549, on l'avait donné tout à l'heure, la zone cible, c'est 6437, 6454, le retracement qui serait le retracement idéal. Il n'y a pour l'instant pas de signaux de faiblesse, au contraire, plutôt de la force sur la plupart des indices. Alors si on regarde le S&P, le trading range, c'est 3907, 4006, la médiane, c'est 3956. Si on rompt le trading range par le bas, c'est 3810 la cible, et par le haut, c'est la zone 4058, 4132. Si, pour ceux qui surveillent le DAX, le trading range, c'est 14226, 14460. La cible, c'est 14690 à la hausse. Si on rompt le trading range par le bas, c'est 14022. Vraiment difficile de donner un sens prioritaire, même s'il y a un petit biais haussier toujours dans ce marché. Des signaux de force. Pas mal de scepticisme encore sur cette hausse qui laisse à penser que le marché pourrait quand même continuer, qu'il va être difficile de trouver des points d'entrée. Donc on cherche aussi des petites stratégies sur des valeurs. Je dois dire que sur ces niveaux-là, c'est pas évident. On a quand même détecté des valeurs fortes pour le moment, comme Mercialis. On est rentré sur Coface et il y a un petit signal intéressant sur Orange pour un mouvement de l'ordre de 6% encore, mais pas de choses très très dynamiques, et un marché qui est plutôt en situation d'attentisme dans l'immédiat.
Voilà quelques clés graphiques et techniques sur cette tendance de mardi. Signé Romain Daubry, qui nous accompagnait ce matin depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Merci Romain. Bonne séance sur ce marché qui, pour le moment, grappille encore quelques points, plus 0,12%, 6642 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
La fin de l'année approche et vous voulez peut-être donner plus qu'un simple cadeau de Noël à vos petits-enfants. On vous explique comment encadrer juridiquement la transmission d'une partie de votre patrimoine au profit de vos petits-enfants grâce ce matin à Marie Damourette. Bonjour.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale de Neuflis OBC. Déjà, voilà, je posais le cadre. Pourquoi privilégier une transmission aux petits-enfants plutôt qu'aux enfants ?
Alors, on réfléchit souvent en fait à cette opportunité du fait de l'allongement de l'espérance de vie, mais aussi du fait de la récente hausse des prix. C'est vrai qu'il, d'une part, on peut avoir des enfants qui ont d'ores et déjà été allotis ou qui ont déjà constitué leur propre patrimoine. Donc finalement, sauter une génération.
Mais parce qu'on hérite de plus en plus vieux.
Voilà, donc sauter une génération devient une vraie option. Mais également, les petits enfants peuvent avoir besoin d'un réel coup de pouce pour financer des études qui sont de plus en plus chères, financer un appartement où là les marchés de l'immobilier ont également augmenté ces derniers temps de manière très importante, ou lancer leur entreprise. Donc on a vraiment cette dualité qui motive ce type de choix.
Je le disais en intro, cadeau, transmission, enfin, il y a vraiment une différence fiscale entre donner et transmettre à ses petits-enfants ?
Alors oui, il y a une réelle différence fiscale entre une donation ou une transmission par succession au profit des petits-enfants. C'est ce qui justifie aussi de se poser cette question. En matière de donation, on a un abattement de droit commun qui est déjà de 31 865 euros, qui s'applique sur toute typologie d'actifs, de l'immobilier, du financier ou des liquidités. On a par ailleurs un autre abattement spécifique de don de somme d'argent qui est du même montant, qui peut s'appliquer dès lors que le donateur a moins de 80 ans et les petits-enfants sont majeurs. Dans ce type de cas de figure, finalement, on fait x2, donc on peut donner plus de 60 000 euros.
Mais attention, ce ne sont pas les mêmes articles, hein, c'est pour ça que même montant, mais ce n'est pas la même typologie.
Hein. Ce n'est pas la même typologie. Ce deuxième abattement ne s'applique qu'en cas de don de somme d'argent et sous les conditions que je viens d'expliquer. Donc, il faut que ce soit un virement, un chèque ou des espèces qui sont transmises. Donc, si on fait les comptes, lorsqu'on a un couple de grands-parents, lorsqu'on réfléchit à une donation de liquidité, on peut donner jusqu'à 120 000 euros par petits-enfants. Et lorsqu'on a une famille relativement large, par exemple avec 10 petits-enfants, je vous laisse faire la multiplication, oui. On arrive à des montants importants.
Bon, ça c'est effectivement les premières étapes. On peut aussi jouer avec l'assurance vie, non ?
Alors, on peut éventuellement jouer avec l'assurance vie lorsqu'on veut donner suite à l'occasion de sa succession, parce que si on ne le fait que par testament, en fait, on sera sous l'abattement de droit commun de 1594 €. Donc, vous voyez, par rapport aux abattements en matière de donation, finalement, on est réduit à peau de chagrin en matière de legs. L'assurance vie, quant à elle, a un cadre fiscal qui est complètement à part et qui peut être extrêmement intéressant quand les contrats ont été mis en place avant 70 ans et abondés avant 70 ans, parce que là on a un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Nommer ses petits enfants permettra de multiplier cet abattement.
Alors bon, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais je vois des grands-parents se dire je peux donner des sommes conséquentes à mes petits-enfants qui doivent avoir avant ou autour de 18 ans. Et quand ils auront franchi cette barre de 18 ans, ils auront un énorme pactole avec lequel ils feront bien ce qu'ils voudront. Et moi, j'ai pas tellement envie que l'argent que je leur transmets serve à s'acheter une petite voiture de sport ou à partir faire le tour du monde avec une danseuse. Donc, comment est-ce qu'on peut encadrer un peu tout ça ? C'est possible d'abord d'encadrer de...
Alors, c'est effectivement possible et tout à fait souhaitable. C'était justement le cœur du sujet que je voulais traiter aujourd'hui. C'est que lorsqu'on réfléchit à une transmission au profit d'enfants mineurs ou de jeunes majeurs, il faut nécessairement encadrer les choses. Pour un mineur, en fait, il faut se poser la question de savoir qui va pouvoir gérer les actifs du mineur. À défaut, ce sont les parents qui sont administrateurs légaux et ces derniers peuvent faire un certain nombre d'opérations, mais pour certaines actions, le Code civil leur demande d'obtenir l'autorisation préalable du juge aux affaires familiales. Par exemple, vendre un bien immobilier ou depuis 2015, vendre des actions. Donc dans ce cas de figure, on voit bien, c'est très lourd, très contraignant. Donc pour se donner plus de souplesse, on aura intérêt à insérer une petite clause dans l'acte de donation qui va prévoir la désignation d'un administrateur conventionnel et non administrateur légaux, et on pourra donner plus de pouvoir à cet administrateur, notamment le pouvoir de vendre un bien immobilier.
Et cet administrateur, ça peut être qui ?
Alors, on est assez libre sur le sujet. C'est parfois les parents. L'idée est uniquement d'élargir en fait le champ d'intervention de ces derniers. Mais on a parfois intérêt à réfléchir autrement, notamment lorsqu'on a des parents qui sont séparés, divorcés, ou lorsqu'on a des petits-enfants de différentes unions. Là, ça sera opportun de ne pas désigner les deux parents, peut-être l'un des deux. Ouais. Et on a aussi parfois tout simplement des grands-parents qui ne souhaitent pas que ce soit le gendre ou la belle-fille qui gère le patrimoine qui vient d'être transmis aux petits-enfants. Donc là aussi, on va avoir ce type de réflexion.
Alors là, on est avant 18 ans ?
Oui, on est avant 18
ans. Une fois qu'on a franchi le cap de la majorité, là, on devient libre d'utiliser son pognon, j'allais envie de dire, ou là encore, on peut l'encadrer ?
Alors, à défaut de disposition, à 18 ans révolus, effectivement, le petit enfant serait libre de disposer de ses actifs. C'est rarement souhaitable, parce qu'à 18 ans, on n'est pas forcément mature, en fait, pour gérer ses actifs. Donc, l'idée est là aussi d'encadrer dans le temps cette transmission. On intègre souvent dans les actes de donation une obligation d'emploi lorsqu'on parle de liquidité. Donc l'idée est de dire je donne de l'argent, mais cet argent doit être utilisé pour acheter un appartement, pour mettre en place un contrat d'assurance vie. On flèche comme ça les emplois qui seront réalisés. Et pour pouvoir assurer une pérennité en fait dans cet emploi, on adosse souvent une clause d'inaliénabilité, c'est-à-dire une clause qui permet de verrouiller l'emploi. Le petit enfant ne pourra pas racheter son contrat d'assurance vie si ce n'est pour acheter un appartement ou financer des études. Donc c'est vraiment ce binôme de clause qui permet d'assurer un encadrement qui soit pérenne.
Si on veut aller au-delà... Et ça court jusqu'à ad vitam aeternam ou...
Alors, vous avez raison, la clause d'inaliénabilité, elle ne peut pas être viagère, puisque le Code civil nous dit qu'il doit y avoir un intérêt légitime et sérieux à insérer cette clause, que le plus souvent, par retour d'expérience, un âge jugé de raison, c'est autour de 25-28 ans.
D'accord. Parfait. Toutes ces clauses, on était hors assurance vie là. Oui. On peut les transposer à l'assurance vie ?
Alors c'est une excellente question. Vous le savez, en matière d'assurance vie, on est complètement hors succession, que ça soit d'un point de vue fiscal, mais aussi d'un point de vue juridique. Donc les mécanismes ne seront pas les mêmes. Donc ma réponse sera un petit peu en demi-teinte, c'est un petit peu oui et non. Concernant l'administrateur conventionnel, la doctrine est positive, donc c'est des pratiques qu'on a de désigner un administrateur conventionnel dans une clause bénéficiaire. Par contre, pour les autres clauses, par exemple la clause d'emploi, là c'est beaucoup plus délicat puisqu'il n'y a pas de réelle sanction attachée au non-emploi qui serait réalisé par le bénéficiaire de l'assurance vie. Donc on a certains conseils qui recherchent une efficacité en prévoyant que l'emploi sera une condition de l'octroi en fait des sommes. Donc si on n'investit pas tel que défini dans la clause bénéficiaire, eh bien on ne perçoit pas l'argent. Mais c'est vrai que il n'y a pas de pérennité dans la durée, puisque une fois que l'emploi est réalisé, rien n'empêche le petit enfant de racheter son contrat ou de revendre l'actif.
Il y a quand même le pacte adjoint, non, qu'on peut utiliser pour justement essayer de verrouiller un peu les choses jusqu'à 25 ans, non?
Alors le pacte adjoint, en fait, c'est un document sous sein privé qui peut permettre d'insérer les mêmes clauses que celles que j'évoquais dans le cadre d'une donation. Mais par contre, pour l'assurance vie, il n'y aura aucune efficacité.
Eh bien, voilà quelques idées à avoir en tête quand on évoque ces questions. Merci beaucoup. Marie Damourette pour l'ingénierie patrimoniale de Neuflis OBC. Le marché parisien, lui, est en petite hausse, plus 0,12, 6642 points.
BFM Business avec Les Échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.
Comment donner des conseils aux particuliers qui investissent en bourse alors que vous le voyez presque au quotidien en nous écoutant, la période est assez volatile et incertaine. Eh bien, Les Échos Patrimoine vous guide en partenariat avec BFM Business et c'est la une à découvrir vendredi en kiosque qu'on vous dévoile en avant-première ce matin avec Marie-Christine Sonquin. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour Cédric.
Merci d'être en plateau, rédactrice en chef patrimoine des Échos. C'est justement en ce moment... dans des marchés comme ceux qu'on connaît, qu'on a besoin de plus de conseils?
Alors, c'est vrai que c'est difficile de donner des conseils lorsque les marchés sont aussi volatiles. Alors, on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire, mais on peut rappeler des fondamentaux pour dire aussi ce qu'il ne faut pas faire et éviter de tomber dans des écueils qui sont très douloureux pour le portefeuille. Alors, la première erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, justement, lorsque les marchés font comme ça du yo-yo, c'est une erreur qui est très bien décrite par une science qui s'appelle la finance comportementale, parce que finalement, investir en bourse, c'est quelque chose qui est très émotionnel, c'est quelque chose qui relève de l'affect. Et quand on tombe dans cet écueil-là, eh bien, finalement, on arrive à acheter au plus haut et à vendre au plus bas. Alors, comment ça se passe en général ? L'épargnant, lambda, en général, il n'a pas envie de prendre trop de risques. Il voit que les marchés sont difficiles, il voit que le CAC 40 a pas mal perdu d'argent, il se dit « Oh là là, je ne veux surtout pas aller en bourse, moi je reste liquide ou je reste sur le fonds en euros de mon assurance vie, j'y vais pas, c'est pas pour moi. Oui. » Et puis il va voir ses amis, ses collègues, son beau-frère qui vont gagner de l'argent, qui ont eux investi en bourse et puis il va se dire « Non quand même, c'est quand même un petit peu dommage. » Donc il résiste, il dit « Non, c'est dangereux, c'est dangereux. » Et puis À un moment, il va y aller. Il va pas pouvoir résister. Et le problème, c'est qu'il va investir justement lorsque les marchés auront déjà pas mal grimpé. Donc, il aura manqué une bonne partie, voire la quasi-totalité de la hausse.
Parce que bien souvent, quand ça se produit comme ça, on achète et puis quelques semaines après, on boit le bouillon.
Alors, voilà, quelques semaines après, on boit le bouillon. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, le marché corrige, le marché prend ses bénéfices. Voilà, il y a une petite correction. Et puis, les analystes vont dire, oui, c'est une prise de bénéfices. Et puis, finalement, il y a quelques cassandres qui vont dire, non, quand même, c'est le début d'une phase baissière. C'est pas bon, ça sent pas bon. Mais notre épargnant, lui,
pareil, il résiste.
Il vient d'arriver, il dit, non. Ouais. Et puis, on m'a dit que la bourse était sur le long terme, en plus. Donc, je tiens mes positions, je résiste. Et puis, en plus, le marché va lui donner un petit peu raison, parce qu'en général, la baisse, elle ne va pas être linéaire. Il va y avoir des rebonds. Il va y avoir quelques rachats à bon compte, comme on dit habituellement. Donc, il va se dire, finalement, ça va remonter. Mais non, pas du tout. En fait, ça va être une vraie phase baissière qui va se dessiner. Et là, mon épargnant, il va résister. Il va tenir. Il va dire non, ça va remonter, il n'est pas question que je vende, j'ai trop perdu pour vendre. Puis au bout d'un moment, il va se dire non, là c'est quand même trop dangereux, je vais sauver les meubles. Et là, il va vendre. Et quand il va vendre, ça va être juste avant que le marché ne rebondisse réellement et ne reparte pour une vraie phase haussière.
Bon, ce scénario, on l'a tous dit, et effectivement, je ne vais pas dire qu'il est un peu tarte à la crème, il est un peu caricatural, non ?
C'est pas faux. Et puis c'est vrai qu'à force de prodiguer les bonnes paroles et puis de décrire ces comportements qui sont contre-productifs, les épargnants, ils ont entendu ce qu'on leur disait. Et d'ailleurs, on a pu le constater pendant la période Covid, ils ont fait tout le contraire finalement, les épargnants, ils ont été très malins. Ils ont vu que les marchés baissaient considérablement, ils se sont dit, Eh bien justement, c'est peut-être le moment d'aller sur ces marchés.
Je vais être contrariant et je vais y aller.
Exactement. Et notamment les jeunes, pourquoi ? Parce qu'ils se sont trouvés coincés chez eux derrière leur ordinateur. Ils se sont trouvés une occupation à faire derrière un écran d'ordinateur. Ils ont dit, tiens, la bourse, non seulement c'est amusant, puis en plus, ça peut rapporter de l'argent.
Donc, et puis ça restait ouvert, là, pour le coup.
Et ça restait très ouvert. Donc, ils sont arrivés en masse sur ces marchés. Et puis, ils ont bien fait, parce qu'en fait, ils ont vraiment profité de ce creux de marché pour venir en bourse. Et ils ont gagné de l'argent. Alors, le problème, c'est qu'ils se sont montrés un peu moins résilients quand la bourse a recommencé à baisser et qu'il y en a beaucoup qui sont partis, qui se sont découragés et ils ont un peu manqué la remontada du mois d'octobre, par exemple.
Bon, on ne va pas régler aujourd'hui leurs problèmes de portefeuille en leur disant quel titre acheter, etc. Mais on peut quand même donner quelques conseils, quelques idées à avoir qui sous-tendent le marché. Qu'est-ce qui déclenche justement ces cycles de hausse, ces cycles de baisse ?
Alors, c'est vrai que, indépendamment du résultat des entreprises, les marchés, ils sont très corrélés, les marchés sont mondialisés et ils sont très corrélés à des grands marqueurs macroéconomiques. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu décevant pour le boursier traditionnel qui a tendance à analyser les comptes des entreprises.
C'est pas en ayant choisi sa pépite qu'il va forcément gagner.
Voilà, il regarde les bilans, les comptes, etc. Et puis, il va y avoir un gros problème de marché et tout le marché va dégringoler.
Y compris la pépite.
Y compris la belle pépite. Mais alors justement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il faut toujours conserver une poche de liquidité, parce que justement, ça va être dans ces marchés très baissiers où il n'y aura pas le tri entre le bon grain et l'ivraie, tout le monde va dégringoler. Et c'est justement dans ces moments-là qu'il faudra remettre un peu d'argent pour racheter ces belles pépites.
Est-ce qu'on peut quand même se dire quels sont les grands marqueurs macro que le marché scrute ?
Alors, si je ne devais en citer qu'un, je dirais bien évidemment les taux d'intérêt. Alors, ces dernières années, les marchés, ils ont été biberonnés à la baisse des taux d'intérêt. Ils ont adoré. Mais alors, inversement, quand les banques centrales ont recommencé à durcir leur politique monétaire, alors là, on est entré en période de glaciation, brusquement. Ouais. Ce n'était pas le réchauffement de la planète, c'est la glaciation des places financières. Et ça a vraiment provoqué une chute des marchés. Alors, la hausse des taux, les marchés détestent ça parce que, évidemment, ça handicape les sociétés qui ont beaucoup plus de mal à se financer. Et les premières sociétés touchées, ce sont les valeurs de croissance qui ont des chiffres d'affaires et des bénéfices qui sont supérieurs à celles de la moyenne des marchés, et donc elles vont être les premières touchées par ce retournement.
Alors, limiter leur capacité d'emprunt, quoi.
Voilà, les valeurs techno, par exemple, sont touchées. On peut citer aussi les biotech ou les valeurs du luxe, mais globalement tout le marché va être touché, sauf les bancaires qui aiment plutôt que les taux d'intérêt montent. Mais globalement, tout le marché va être touché par une hausse des taux d'intérêt.
Marché actions et marché obligataire, d'ailleurs, aussi.
Alors, oui, le marché obligataire, mais a fortiori, il va y avoir des arbitrages qui vont être faits en faveur du marché obligataire, parce que justement, en termes de primes de risque, ça va redevenir intéressant de se porter sur le marché obligataire, parce que vous allez pouvoir investir de l'argent sans risque à des taux qui redeviennent intéressants. Quand vous aviez des taux obligataires à zéro et des marchés actions qui rapportaient de l'argent, personne n'avait tellement envie d'aller
C'est ce qu'on avait appelé TINA. Pas d'autre alternative que le marché actions.
Voilà. Pas d'alternative autre que le marché actions. Mais là, donc le fait que le marché obligataire redevienne attractif, ça va contribuer à faire baisser les marchés actions.
Les taux, donc on l'a rappelé, c'est hyper important. Mais il n'y a pas que ça.
Il y a beaucoup d'autres marqueurs macroéconomiques qui sont extrêmement importants. Alors, celui qu'on ne peut pas éviter en ce moment, c'est l'inflation. Donc, l'inflation, ça a évidemment un impact énorme sur les résultats des sociétés. Pourquoi ? Parce que leurs coûts explosent et elles ne peuvent pas toujours répercuter ce coût sur leurs prix. Donc, bien évidemment, ça va écraser les marges bénéficiaires. Et en tout cas, ça va nettement réduire la visibilité sur les marges bénéficiaires. Donc les entreprises n'aiment pas l'inflation. Alors il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Ce sont les sociétés qui, elles, peuvent répercuter.
Qui ont du pricing power.
Voilà, le pricing power, c'est quand vous pouvez répercuter vos coûts sur vos prix de vente. Par exemple, parce que vous êtes en situation de monopole, ou par exemple parce que vous vendez des produits de luxe et que votre clientèle finalement a largement les moyens et aura toujours envie d'acheter ces produits de luxe. Donc même même si les prix explosent, vous aurez toujours de la clientèle. Mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle, parce que globalement, les sociétés vont être impactées par l'inflation. Il y a une autre exception aussi, notamment quand l'inflation provient de la hausse du prix des matières premières. Ce sont les sociétés qui, justement, sont fondées sur ces matières premières. Je pense, par exemple, à toutes les sociétés du secteur de l'énergie. Hein, on l'a bien vu en 2022, elles ont profité de l'inflation. Enfin, globalement, c'est pas bon pour le marché, d'autant plus que les États et les banques centrales vont vouloir lutter contre cette inflation.
Et on en revient au taux.
Voilà. Et quels sont les moyens dont elles disposent pour lutter contre l'inflation ? Resserrement de la politique monétaire, hausse des taux, et donc on revient au raisonnement précédent, hausse des taux, c'est pas bon pour les marchés.
Bon, vous nous avez donc cité les taux, vous nous avez cité l'inflation, et pour le moment, on n'a pas parlé de croissance.
Alors, c'est vrai, la croissance dans tout ça. Alors, c'est vrai que c'est important, mais il faut quand même relativiser, parce qu'en bourse, on ne regarde pas ce qui est en train de se passer, on regarde, les investisseurs regardent ce qui va se passer demain, voire après-demain. Donc, en fait, il ne faut pas regarder la croissance, il faut regarder les perspectives de croissance. Et d'ailleurs, on a pu observer ce phénomène pendant la période Covid. Hein, les marchés boursiers, ils ont rebondi bien avant que l'activité économique ne reprenne son cycle et ne redevienne comme avant la période Covid. Donc, on a toujours un temps d'avance, finalement, sur cette période. Alors, évidemment, quand il y a des perspectives de récession, vous avez certaines sociétés qui sont plus pénalisées que d'autres. Les sociétés les plus pénalisées, ce sont les valeurs qu'on appelle les valeurs cycliques. Et alors, dans ces valeurs cycliques, vous avez aussi différents stades, parce que vous avez des valeurs cycliques qui vont être impactées tout de suite par une récession. Je pense par exemple aux valeurs de communication, de pub. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'on va couper tout de suite les dépenses. Et puis, vous avez d'autres valeurs cycliques qui vont être impactées dans un second temps. Par exemple, les valeurs industrielles, elles vont être impactées également, mais pas tout de suite. Donc, bien évidemment, ces cycles de croissance et de récession, c'est une donnée macroéconomique à observer, mais il ne faut pas oublier qu'il faut toujours avoir un temps d'avance.
Et du coup, il faut faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire regarder vraiment valeur par valeur pour essayer de fabriquer ce portefeuille le plus équilibré possible.
Alors ça c'est l'idéal, mais pour certaines personnes c'est vrai que c'est une passion, hein, la bourse, et on peut le comprendre, parce que c'est vrai que c'est absolument...
C'est se connecter à l'économie, quoi.
Se connecter à l'économie, et à l'économie réelle d'ailleurs. Ouais. Bon, pour d'autres, ils aiment bien, mais ils n'ont pas vraiment le temps, et puis il y en a d'autres pour lesquels c'est carrément une corvée. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'on ne peut pas tout suivre. On ne peut pas tout suivre de façon sérieuse. Les professionnels ont déjà du mal à le faire. Alors, les particuliers, ils ont déjà tendance à avoir un petit temps de retard. Les particuliers, ils ont vraiment beaucoup de mal. Alors, comment faire ? Ce que font pas mal de gens, et je trouve que c'est assez malin comme tactique, c'est de se faire un cœur de portefeuille avec de la gestion collective. Donc, des fonds parce que vous avez confiance, parce que vous avez des très bons gérants de conviction. Vous avez aussi le système tracker, si vous voulez
les ETF.
Réduire les frais. Voilà, vous allez sur les ETF, parce que ça peut être très malin aussi d'aller sur les ETF.
On appelle la gestion passive.
Pour suivre la tendance, pour suivre les indices, tout en réduisant les frais. Et puis, parallèlement, vous avez votre portefeuille de petites ou de grosses valeurs que vous mettez dans votre PEA ou dans votre PEA-PME et que vous suivez pas à pas, et vous regardez les résultats des sociétés, les perspectives bénéficiaires. Et puis, c'est sympa aussi d'avoir des petites valeurs. D'ailleurs, ce sont elles qui performent souvent plus que les autres. Sauf que, il faut dire que ces dernières années, les cinq dernières années, sont plutôt les grosses valeurs, les valeurs du CAC 40 qui ont battu les petites. Comme quoi, c'est peut-être par là qu'il faut conclure. Quand on investit en bourse, il faut vraiment regarder vers l'avenir. Il ne faut pas regarder dans le rétroviseur.
D'ailleurs, on rappelle les petites lettres qui a marqué partout.
Et hein, voilà, les performances du passé ne préjugent pas celles de l'avenir. Et ça, c'est vrai, qu'on choisisse un fonds, qu'on choisisse la gestion collective ou qu'on choisisse une valeur.
Les marchés en ce moment volatiles, incertains, et donc les conseils des éco-patrimoines qui sont à retrouver dès vendredi en kiosque, bien évidemment. Et Marie-Christine Sonquin nous en présentait en exclusivité la une. Merci Marie-Christine.
Merci
à très
à
bientôt.
Vous.
BFM Business avec Les Échos, nos réponses pour bien gérer votre patrimoine.